On a commencé, on a pris un tout petit peu de retard, on s'en excuse auprès de nos habitués de cette émission hebdomadaire que vous suivez maintenant tous les lundis avec nous. Pendant 1h30, on refait la toute la France du foot avec moi ce soir, comme très souvent. Il y a Roméo.
Oui, bonjour à tous.
Il y a Adrien.
Bonsoir à tous.
Il y a Anne pour sa première dans l'émission spéciale Ligue 1.
Bonsoir.
Ch'ti.
Salut à tous les soccers.
Hugo.
Hola.
Et Valentin.
Salut à tous.
Et Dan qui est aux manettes comme très souvent. Donc ce soir on va essayer de faire un petit bilan. Chacun au niveau de son club va faire un petit bilan sur les choses qu'il a retenues de cette première moitié de saison. On va aussi passer un petit peu nos coups de cœur et nos coups de gueule sur les joueurs qu'on a appréciés, pas forcément dans nos équipes, mais au niveau de la Ligue 1. On reviendra aussi un petit peu sur un classement qui a été établi par l'équipe. Tu nous en parleras un petit peu, Anne, en fin d'émission. Un classement des meilleurs joueurs de cette première partie de saison et on fera aussi un petit peu le bilan sur les bons coups qu'il pourrait y avoir au mercato et enfin, ça sera ça notre premier gros débat, le fait de la non-attractivité de la Ligue 1 ne vient pas en partie des entraîneurs qui sont, on va dire, plus que dans une mentalité défensive et qui pourrissent complètement le niveau et l'attractivité visuelle des matchs. Quand on est spectateur ou téléspectateur, on s'y fait énormément chier souvent devant les matchs, faut dire ce qui est. Et on se retrouve avec des taux de but inférieur à 25, alors que dans d'autres championnats on est aux alentours de 35. Donc voilà, on a encore un beau programme pour cette dernière de l'année. On va commencer donc par ce débat sur les entraîneurs de Ligue 1 et un entraîneur que j'aimerais bien qu'on parle. Et je vais d'abord te demander, je vais te poser la question, Ch'ti, Claude Puel. Alors Claude Puel, je pensais que c'était un entraîneur justement qui était un petit peu différent que ceux de la Ligue 1 qu'on connaît. C'était un entraîneur qui aimait bien faire bonne figure avec son équipe. Et finalement, alors qu'il a quand même des moyens encore supérieurs qu'il avait à Lille, on voit qu'avec Lyon, c'est pas exactement ça qu'il est en train de réaliser. Et est-ce que tu me confirmes l'impression que j'avais de lui quand il était à Lille, qu'il avait quand même fait une sacrée équipe collective et qui était vraiment plaisante à voir jouer?
Là on voit bien sûr que sur les premiers matchs de cette saison, enfin sur la phase aller, que le jeu de Puel, c'est sûr, c'est tourné vers la défense. À Lille, il a fait ça pareil, mais d'abord on sait qu'il a eu beaucoup de mal. Il a terminé premier 14e la première saison, donc il faut peut-être lui laisser une saison ou deux pour vraiment prendre conscience que tout le collectif peut en bénéficier. Mais Puel, c'est un entraîneur qui est très qui mise beaucoup sur l'agressivité. Déjà en tant que joueur, je peux vous dire qu'il collait pas mal de tampons. À Lille, il a instauré ça. D'ailleurs, lui-même s'était plaint lors du match Lyon-Lille de trop plein d'agressivité envers ses protégés. Ouais, donc moi je pense qu'il faut laisser le temps que la magie opère, enfin si on peut qualifier ça de magie.
Ok, donc toi tu serais plus sur il faut lui laisser le temps à Claude Puel, donc à Lyon. Moi je vois quand même le fait qu'il a quand même des moyens supérieurs à ce qu'il avait à Lille et il en profite pas, quoi, parce que c'est dommage, on a peu vu souvent une attaque lyonnaise composée de deux éléments, que ce soit Fred Benzema ou même Piquion Benzema, et on a à la fin des matchs qui sont plutôt, on va dire, ternes du côté de Lyon. On n'a pas eu de très très grands matchs depuis le début de la saison. C'est pour ça que il me déçoit un petit peu en ce début de saison, et j'espère que on en parlait l'autre fois lors du tirage vendredi soir, et qu'on a su que Lyon allait rencontrer Barcelone. J'espère qu'il va pas justement essayer de mettre un schéma encore plus défensif qu'à son habitude et là laisser totalement le jeu à son adversaire qui sera Barcelone, et là il risque vraiment de se prendre une correction sur les deux matchs. Ouais, Ch'ti.
J'ai l'impression que le profil de Puel ne convient pas à Lyon. C'est donc il va falloir encore plus de temps, parce que on sait la star de Lyon c'est Benzema, un offensif, alors que Puel on sait c'est très porté sur la défense, et donc c'est le on n'a pas les mêmes on avait des attentes du côté de Lyon, et puis forcément Puel ne les satisfait pas.
Oui. Et plus en général, en France, on choisit l'entraîneur à l'arrache, quoi. Par exemple, Ricardo à Monaco, il a été choisi pour ses bons résultats à Bordeaux, mais le profil ne correspond pas du tout, donc on choisit généralement les.
Mais c'est ça le problème.
Dire, les entraîneurs comme une boîte de céréales au supermarché.
Il a été pris. Attends, je te coupe. Je te dis désolé. C'était parce qu'il a été pris quand même, alors qu'il a fait deux saisons quand même les plus noires depuis une vingtaine d'années à Bordeaux, où ils ont vraiment vu. Ils ont eu des calvaires. Ils ont terminé deuxième, mais ils ont eu franchement un calvaire dans le jeu. Hein. Ricardo a terminé deuxième de la Ligue 1 et. En pourtant ne faisant aucun match fantastique lors de son passage à Bordeaux, il a vraiment pas laissé un bon souvenir. Donc moi c'est ça qui me tracasse, parce qu'on va continuer en fait dans cette dynamique inoffensive, et Marvolo me le disait hier et il avait raison, on le voit encore avec Nancy, ça il y a quand même une certaine réussite de cette mentalité défensive comme ça en France, et donc ça entraîne ça fait que on continue dans cette optique là. Alors on voit Ricardo, il a été pris par Monaco parce qu'on s'est dit il a eu des bons résultats à Bordeaux, pourquoi pas il le ferait pas du côté de la Principauté, et on voit Pablo Correa qui en UEFA, comme me faisait rappeler Marvolo, il a marqué presque aucun point, d'ailleurs il s'est fait éliminer de la coupe, même qu'il a fait des beaux matchs contre le CSKA Moscou notamment, et par contre il a des résultats quand même intéressants, une victoire contre Bordeaux, une victoire contre Marseille, quand il joue le mur derrière. Ouais, Ch'ti.
C'est comme on se rend compte en fait que dans certains clubs les entraîneurs sont complètement pas passifs, qui servent à rien, parce que quand tu vois le niveau maintenant, c'est un gros niveau quand même, faut le dire, qu'a atteint Bordeaux pour pouvoir titiller Lyon, bon en même temps Lyon qui s'est nettement affaibli, mais là il y a une nette différence entre l'ère Ricardo et l'ère Blanc. Même s'il y a sûrement eu des changements de joueurs entre temps, bon pas beaucoup, mais il y a certains entraîneurs qui savent se faire à respecter. Bon, Guéret, on sait qu'il exige de la discipline à Marseille, malheureusement, et il l'obtient pas vraiment. Mais dans certains clubs de Ligue 1, certes, il y a des entraîneurs qui sont passifs. Même si vous voulez, quand Le Guen était à Lyon. Je me demande vraiment s'il était vraiment pour quelque chose quand Lyon atteignait les quarts de finale de la Ligue des Champions, parce que avant avec Rennes il avait
pratiquement. C'est vrai, je me suis souvent demandé la même question que toi.
Et au Celtic Glasgow il est même pas resté 6 mois. Pas le Celtic, les
non,
Rangers.
C'était les Rangers, ouais, exactement. Mais oui, il y est resté très très peu longtemps. Roméo, est-ce que tu aurais un avis, par exemple, toi, sur Guéret? Moi, un entraîneur que j'aime énormément et que les résultats de Marseille qui sont de plus en plus décevants pourraient le pousser à la sortie, ou lui-même pourrait le pousser à s'en aller lui-même, parce que quand je vois la conférence de presse qu'il a fait ce matin à la Commanderie, qu'il a dit hier, il y avait 11 Olympiens nuls sur le terrain et la défaite est lourde mais méritée et qui s'en va derrière, je vois de plus en plus un entraîneur dépité, et pourtant je pense que c'est un entraîneur qui pourrait relever un des seuls qui pourrait relever le niveau de la Ligue 1.
Oui, malheureusement, je pense que ça se voit dans son attitude. J'ai l'impression qu'il a lâché l'affaire, qu'il pense. Je pense que lui-même dans sa tête, il a l'impression qu'il a tout essayé et tout et n'importe quoi et ça marche pas. Il y a toujours ce problème défensif. Il a essayé l'année dernière quand il a pris l'équipe. C'était pas son équipe, c'était Aymon qui avait fait tout le recrutement. Et là, cette année, il a fait son recrutement. Il a fait il a recruté les joueurs qui pour lui et allaient très bien pour son équipe. Et il a vu que ça marchait toujours pas, qu'il y avait toujours le problème défensif, encore une fois. Et je pense que dans la tête, il est un peu dégoûté d'avoir essayé et il voit qu'avec cette équipe, ça marche pas, quoi.
Ouais, Anne, t'avais aussi un petit avis sur Eric Guéret.
Ouais, en fait, moi j'ai remarqué que Guéret, souvent dans les conférences de presse, il dit qu'il va prendre des sanctions, qu'il va faire jouer les meilleurs et que ceux qui font rien sur le terrain, c'est fini. Et en fait, à chaque fois, on voit que c'est la même chose, c'est toujours les mêmes joueurs qui jouent, j'ai l'impression. Et donc, il est peut-être pas assez sévère avec l'équipe.
Bah, peut-être qu'il a pas les. Et Roméo, tu me confirmeras, il a peut-être pas aussi les joueurs nécessaires pour pouvoir, on va dire, menacer les titulaires de perdre leur place en gardant un mec comme Cissé, ça aurait peut-être pu marcher son discours là, mais maintenant, et c'est là où je lui ferai peut-être le reproche, quand il a dit qu'il était satisfait du recrutement de Marseille cette saison, on peut peut-être lui reprocher ces dires là car on voit que finalement l'effectif de Marseille n'est pas assez étoffé, tu crois pas, Roméo?
Ouais, je suis d'accord parce que je pense que c'est ça l'erreur, c'est que le recrutement a été confié d'une part à Anigo, qui est une pipe, quoi, et de l'autre, malheureusement, je pense que
Guéret, il est apprécié par les supporters de par son ancienneté au club et son attachement, quoi.
Ouais, pas la majorité, hein, pas la majorité, ah, t'inquiète. Ah ouais, non, mais par ses choix de recrutement, bah, déjà que cet été, il voulait garder à Calais. Il voulait garder à Calais.
Kanga.
Voilà, quoi.
Tu te rappelles Hugo d'à Calais, ce qu'il nous avait fait l'année dernière?
Hein? Oui, je m'en rappelle très bien.
Ah. D'accord.
On est bon pour ça, nous. On donne de la confiance.
Il y avait une réaction de Helvetia sur l'Olympique de Marseille.
Ouais, sur Guéret et sur ses déclarations d'aujourd'hui, je me demande. Si après tout, donc oui, certes, on sent que les joueurs ne suivent pas vraiment Eric Guéret. Est-ce que c'est vraiment pas un peu de sa faute qu'il attend tôt un peu trop des joueurs, alors que lui-même devrait normalement savoir que finalement cet effectif, bien tout ce qu'on veut dire sur lui, mais ne peut pas faire mieux que deux, troisième de Ligue 1, puisque
et encore, place, et encore, et encore. Je suis pas, pour moi, je suis pas persuadé que.
Place, c'est quand même à l'âge de
Ah non, 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 pour moi, alors là, je renouvellerai encore une fois. Paris a largement plus le potentiel de terminer deuxième et Bordeaux que Marseille cette saison, j'en suis.
Bordeaux, je suis bien d'accord. Mais Paris, non, mais jamais de la vie. Paris, c'est une équipe
Paris
non, vas-y, vas-y.
Que l'Olympique de Marseille n'a pas même deux choses. De un, il a les attaquants. Le Paris a les attaquants. Tu mets Oaro ou Liendela à Paris, à Marseille, c'est déjà mieux. Et de plus, ils ont un banc. Un banc dans une équipe, c'est toujours très important. Un ou deux joueurs par poste. Ils ont peut-être que un ou deux joueurs par poste, mais ils ont les joueurs et c'est déjà ça. À Marseille, avec les mêmes joueurs, je suis sûr et certain que Marseille est déjà deux ou troisième. Parce que Marseille a le talent. Marseille a
le talent.
A les joueurs.
Le talent.
Des joueurs de talent.
Alors ça.
Des joueurs de talent.
Ah oui, oui.
Oui, a des joueurs de talent.
Marseille a le 11 type.
Ben Arfa, on peut pas dire qu'il a pas de talent.
Après, oui, bah, par contre, ce mec-là, quand il apprendra les bases du foot collectif, qu'on me dise voilà. Et qu'on me confirme que c'est un joueur.
Un Valbuena, un Koné, un Niang, etc. Oui, ils ont tous du talent. Après, ils ont un gros problème. C'est la régularité. la capacité à comprendre un jeu, à s'adapter.
C'est surtout l'inefficacité marseillaise, quoi. Ça sert pas à grand chose aussi d'avoir un talent comme ça quand on a aucun point d'ancrage devant capable de mettre un but. Quand on a aussi des mecs comme Ben Arfa qui vont jamais lever la tête, Valbuena qui va se rouler par terre 40 fois dans un match. Je suis désolé, mais là on peut pas dire que Paris a quelque chose à envier à Marseille, ou peut-être au niveau du talent, mais au niveau de l'efficacité, je suis persuadé que Paris peut mieux faire cette saison que les Marseillais, et je renouvelle ce que je disais hier et avant-hier. Ouais, Adrien, t'avais peut-être une petite réaction par rapport à ça.
Quand Helvetia, tu dis que Paris a un banc, faut voir le banc en profondeur, parce qu'à part le Ndoula et Kezman,
j'ai pas parlé de la première si tu veux, la première ligne du banc. Et Marseille,
ouais, pas bon, la première ligne du banc. La première ligne du banc, d'accord, c'est Ndoula, et pour moi c'est Kezman, parce que tu veux mettre un défenseur, tu mets personne, enfin à part Sako, et t'as personne, t'as pas un arrière droit, t'as pas un arrière gauche qui peut remplacer des mecs comme Armand ou Camara, et le banc il est faible au Paris Saint-Germain. Je suis désolé, mais on m'a blessé comme Tiara.
Pour moi, non, je vois pas franchement un banc. Je le disais au début, enfin il y a même encore quelques semaines, je disais que Paris avait peut-être la profondeur de banc qui manquait, mais à part peut-être, comme tu dis, un défenseur, Paris a vraiment moyen de faire tourner son effectif, car on a Chantôme qui est tout le temps sur le banc. On a Julie qui peut être replacé au milieu de terrain au cas où il y aurait un manque de milieu de terrain, et donc un attaquant, soit Louis Ndoula, soit Kezman, qui épaulerait Ouaro. Donc au niveau du milieu et de l'attaque, ça irait. Il y aurait juste, comme tu dis, en défense, ou à part Sako, c'est vraiment très très limite.
Même à droite ou à gauche, si t'as Tchara qui se blesse, à droite tu peux mettre personne à part Mounoumbou, Mabiala, quoi. Ça, c'est pas le niveau Ligue 1, quoi. Donc pour moi, c'est encore trop juste du côté du Paris Saint-Germain à certains postes.
Mais comme tu l'as remarqué très justement, Anne, c'est vrai que la technique dans le football, c'est pas grand chose quand on le met pas au service du collectif. Ouais, Ch'ti, t'avais une réaction par rapport à tout ça.
Je vais revenir à Marseille. Je sais surtout dire quand il y a un certain je-m'en-foutisme de la part des joueurs. Bon, le meilleur représentant, c'est Ben Arfa, qui lève jamais la tête, et donc comme tu dis, il y a pas de remplaçant pour pouvoir vraiment menacer des gars comme Zubar qui sur le troisième but de d'hier, je crois qu'il y en a un des deux qui louche quand il conduit le ballon selon Marvolo.
C'est Taillou.
C'était
Taillou, c'est quoi.
Bon,
c'est l'arrière gauche qui a été élu dans l'équipe type l'année dernière de Ligue 1. Ça, je crois que c'est la chose où je me remettrai jamais dans le football, avec la faute d'Akalé sur Monsoro qui avait jamais été sifflé l'année dernière. Je crois que les deux choses de pire de ma vie de supporter l'année dernière, franchement, ça a été ça.
Et pas la nomination de Ricardo Gomez au poste d'entraîneur?
Non, je crois que c'était encore pire. Et puis la nomination de Ricardo Gomez, elle date de plus longtemps. Oui, bon, bah moi, enfin pour moi, vous avez un petit peu raison, surtout toi, Ch'ti, en disant que Marseille n'a pas les joueurs pour faire tourner, et donc pour pouvoir mettre une pression sur les titulaires. Oui, Hugo, t'avais une rumeur là concernant un Parisien.
Ouais, bah Sako serait suivi par Newcastle et le club anglais. Voilà. Donc s'ils enlèvent Sako, il y aura personne pour remplacer.
Bah, il est pas
titulaire. Pour parler de ça, il y avait une rumeur du journal anglais qui parlait en même temps de Sako. Enfin, cette rumeur était un peu farfelue, quoi. Et il y aurait en même temps un échange, on vendrait Sako à Newcastle et on serait intéressé par comment il s'appelle, par Galas.
Enzo Bia.
Non, par Galas.
Enfin bon, c'est que des rumeurs.
Ouais.
Avec une rumeur, voilà. Donc,
on en reparlera tout à l'heure de toute façon. Oui, vas-y.
Oui, pour parler du fait que Marseille ne puisse pas viser la seconde place, selon toi, Arnaud, je pense que au niveau, si on regarde,
pas la viser, mais moi je pense qu'ils l'atteindront pas. Ils peuvent la viser s'ils le veulent, mais je pense personnellement qu'ils ne pourront pas.
Bah, en continuant avec cette mentalité-là, en tout cas.
Oui, d'accord. Mais non. c'est pas. Il faut pas juger l'équipe sur le dernier match contre Nancy, où je pense qu'il y a eu un naufrage collectif. Maintenant, je vais être honnête, mon seul espoir d'accrocher le titre, ça serait qu'il y ait un recrutement, mais un bon recrutement où on voit des
non, il
les,
y a pas un bon recrutement, il faut un recrutement énorme, excellent.
Oui, un recrutement qui
d'accrocher la deuxième place.
Oui, non, mais un recrutement qui comblerait toutes les lacunes de l'équipe.
Ouais, bon, bah alors vous en avez beaucoup à recruter. Vous avez une équipe entière à recruter, je crois, parce que
un recrutement qui n'est pas dirigé par Anigo.
Voilà, exactement.
Ouais, Hugo, t'avais
un Anigo, c'est beaucoup de mauvais coups, mais c'est aussi beaucoup de bons coups.
Bon, très peu.
Hugo, t'avais une petite action, parce que c'est le bordel, là, on n'arrive pas à en placer une avec le Troméo qui ouvre tout le temps, Helvetia qui en peut plus quand on parle de Marseille. Alors, hein. Vas-y.
C'est incroyable, ça. Moi, je peux parler de Monaco, en fait. Je peux parler de champion et tout, mais quand tu perds, t'as perdu plein de matchs 4 fois à domicile avec que 3 buts encaissés. Personnellement, si champion ressemble à ça, je démissionne de la Ligue 1, quoi. Et après, pour toi, un bon recrutement, c'est chaud en mois d'hiver.
C'est vrai qu'il y a très peu de bons coups de recrutement. Enfin, il y en a très peu. Il y en a quand même des exemples lors des 15 dernières années, mais des bons coups de recrutement.
Après, il y en a notamment.
Vous en avez lors des dernières années. Tiens, ça serait intéressant, ça. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Bah, attends. Tu dis rien, Helvetia. Tu gardes ça pour tout à l'heure.
Ah oui.
On va se griller nos arguments. T'avais fini, Hugo, ou
Non, j'allais dire pour faire un bon gars à recruter. Faut que le gars soit bon tout de suite, et alors ce sera très dur, quoi, parce que si c'est Jovanovic, le temps qu'il s'adapte et tout,
non, je
vont pas dépenser des millions aussi.
Oui, il y a une possibilité que ce soit ce joueur que Guéret a en tête, mais personnellement, je suis partagé. Beaucoup de supporters du Standard disent déjà, faut pas oublier que Cole a été recruté par le Standard de Liège. Il a été recruté en tant qu'ailier gauche. Et je pense pas que ça soit ce joueur qui va apporter de la puissance physique. C'est un petit joueur encore. C'est pas un gabarit impressionnant. Et je pense pas que si Guéret l'achète, je veux bien lui faire confiance, mais je pense pas que ça soit le profil de joueur qu'il faille à Marseille en tant que finisseur, meilleur finisseur que Nyang.
Ok. Il y avait d'abord pour là-dessus, et après je viendrai un peu plus en particulier à Paris qui, après longtemps avoir critiqué son entraîneur, moi le premier, Paris qui commence, et surtout Le Guen qui commence à montrer des belles choses, et je voudrais revenir sur son attitude des dernières semaines. Mais Ch'ti, d'abord, tu voulais finir un petit peu sur tout l'ensemble du sujet de Marseille, et on en revient aussi un petit peu au sujet qui était sur les entraîneurs, et donc je pense que c'était sur Guéret que tu voulais parler.
Oh non, en fait, je vais sortir de Marseille, je vais revenir totalement sur tous les entraîneurs en général. Alors, c'est le modèle à prendre, c'est surtout l'Angleterre, où on voit il y a énormément d'entraîneurs étrangers. C'est une multiplication de différents genres de football, parce que en fonction du pays, il n'y a pas forcément le même style de jeu qui est développé. Et donc ça, je pense que c'est vraiment la méthode qui fait que la première ligue est vraiment très diversifiée et apporte beaucoup de spectacles, parce que sur les quatre entraîneurs du Big Four, il y a aucun anglais. Wenger, français, Sir Alex Ferguson est écossais, Benitez, espagnol.
C'est le même style, hein, Ferguson. Ferguson, anglais, que ça, c'est le... C'est
oui, non, mais bon, d'accord, mais ce qui veut dire, je t'y ai, je le rejoins, parce que là encore, on en revient au pouvoir d'attractivité de la Ligue 1, tout comme les joueurs. Les entraîneurs ne viennent pas étrangers, les grands entraîneurs ne viennent pas, donc je sais qu'on n'est pas obligé forcément d'avoir de très grands entraîneurs étrangers qui viennent en France, mais on en revient au même problème, ça, c'est des entraîneurs qui sortent du truc dirigé là par Aimé Jacquet, de la DTN, et donc on a un réel problème, car là encore le pouvoir d'attractivité de la Ligue 1 se fait ressentir aussi sur au niveau des entraîneurs. Ouais, je
fais
un petit peu
les et comme c'est pas DTN, c'est Ricardo, donc franchement ça
ah mais bon, vous en avez après Ricardo ce soir.
En fait, les gens
parlent jamais là.
En fait, les entraîneurs qui sortent de la DTN, ce sont ceux, comme dit Marvolo, ceux qui ont été finis à la pisse.
Non, mais il a pas tout à fait tort. On en reviendra, je reviendrai un petit peu dessus, parce que j'aimerais bien un petit peu parler de la formule de ces entraîneurs-là, formés par Aimé Jacquet, génération 98. Mais c'est vrai que les entraîneurs façon DTN, c'est des mecs, on se demande d'où ils sortent, hein, franchement. Oui, Roméo, sur un petit peu tout ça.
Oui, oui. Je pense que c'est tout d'abord une philosophie française en France, où on joue pas pour gagner, mais on joue pour pas perdre. Je pense que c'est ça le problème, pas le fait que le jour où la philosophie changera, je pense que ça sera déjà un bon pas de fait, parce qu'en Angleterre, pour revenir à ce que t'as dit tout à l'heure, c'est pas le fait qu'il y ait plein de cultures, plein d'entraîneurs étrangers qui font que la première ligue est attractive, mais c'est aussi une philosophie en Angleterre. On attaque et c'est l'offensive qui prime. C'est pas hop, venez, je vous attends, on est 11 derrière, qu'est-ce qu'il y a.
Voilà, il y a aussi un foot très très physique en première ligue, donc là c'est pas que tout sur l'attaque. Si forcément on met des coups, il n'y a pas que tout sur l'attaque.
Non, mais on est
en Angleterre les joueurs, c'est des joueurs de grande classe quand même, et puis les gardiens sont quand même d'énormes bourdes, au contraire des gardiens français qui sont vraiment qui sont pas mauvais.
On en revient au même problème, quoi, parce que en Angleterre, c'est ce football-là qui marche. Enfin, pas forcément en Angleterre. Regardez à l'Euro, l'Espagne, c'est celle qui joue le football offensif, le beau football, qui gagne. Manchester, c'est celle qui joue un football offensif, qui gagne la Ligue des Champions. Et la Coupe du Monde des Clubs, d'ailleurs, ils l'ont gagné dimanche après-midi, là, aux dépens de Quito, il me semble, grâce à un but de Rooney. Et le problème, c'est que donc c'est ce football-là qui marche, ce football offensif, ce football fantasque, visuellement très attractif. Et en France, c'est un football beaucoup plus, qu'on va dire, défensif qui marche. En témoigne encore, je rappelle, les résultats de Correa qui en UEFA ne marque presque pas de points et se fait éliminer, et qui en championnat en marque 6 lors de confrontations contre Bordeaux ou contre Marseille, qui sont des prétendants aux places européennes. Donc c'est aussi le fait que certaines philosophies de jeu marchent dans un pays et pas dans d'autres. Oui, Alvesia.
Je vais défendre la Ligue. Bon, j'aurais jamais pensé faire ça une fois dans cette émission, mais je vais le faire. En Angleterre, ceux qui jouent pour gagner, c'est malgré tout, c'est les 5-6 premiers. En France, c'est la même chose. C'est tout. Et en France, t'as 5-6 premières équipes qui jouent pour gagner. Et après, c'est clair que les Valenciennes, le Mans, l'Orient, etc., ils jouent pour pas perdre. Après, faut garder aussi l'Angleterre, les matchs de deuxième partie de tableau. Ce sera exactement la même chose. Faut arrêter vos conneries. C'est juste que parce que vous regardez Manchester, Arsenal, Chelsea, Liverpool tous les week-ends. Ah. Regardez un peu Wolverhampton contre Fulham, vous allez bien vous emmerder.
Wolverhampton, Fulham, c'est de la Ligue. C'est la championship, hein. c'est plus en première ligue, et je suis pas d'accord du tout Fulham, même ils sont descendus excuse-moi, je confonds, pardon.
C'est du bas de tableau, quoi.
Oui, mais non, mais même quand tu t'évades des 5 premiers, je suis pas d'accord. En Angleterre, on joue l'offensive. Regarde, tu peux voir Tottenham, tu peux voir West Ham, ils vont jouer l'offensive. Ok, peut-être que les 3 relégués offensifs, mais en Angleterre, on joue l'offensive. Faut arrêter de dire que non, en France, c'est la même chose. En France, c'est un championnat de merde. Lyon joue pas l'offensive. Je suis désolé. À part Bordeaux, Marseille, tout.
Ils jouent pour gagner, non?
Cette année.
Lyon, ils jouent pour gagner.
Contre Marseille, j'ai pas vu un Lyon.
Désolé, c'est ça.
Contre Marseille, j'ai pas.
Oui, mais on peut oublier ce match-là. D'habitude, Lyon, faut le dire, Alvesia a raison. Lyon joue pour gagner. Il y a pas à dire le contraire. Là, franchement, c'est.
D'accord.
Ah si, on est obligé de dire ça. Justement, d'abord, Hugo, puis je te lancerai après Anne. Hugo, t'avais un petit truc sur l'Angleterre et sur la philosophie du jeu en Angleterre.
Non, mais il faut arrêter de croire un truc en Angleterre, c'est que tous les matchs, c'est des matchs de fou, ça se joue à 3-4-0, c'est partout pareil, t'as des bons matchs et t'en auras des mauvais. En Angleterre, je sais pas si vous regardez les matchs de Chelsea par exemple, mais des fois, tu t'emmerdes clairement, quoi.
Ah oui, non, je regardais d'ailleurs l'autre fois le Chelsea Newcastle qui est pourtant, enfin bon, une équipe depuis déjà 7 ou 8 saisons qui qui ne, à part son nom, n'est vraiment plus au top niveau, mais on voit Newcastle qui défendait à 10 derrière. Alors là, c'était le Nancy de la première ligue. Là, ce jour-là, ça m'a vraiment impressionné. J'ai regardé Chelsea Newcastle et on voit que cette philosophie de jeu peut être reprise aussi. Mais on va dire que dans la majorité des cas, on voit quand même des équipes qui essayent de jouer un minimum, même contre des grandes équipes. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la réussite d'Aston Villa. On voit quand même des équipes.
Aston Villa, ils sont en train de rentrer tranquillement dans ce qu'on pourrait appeler, je pense, d'ici quelques années, dans un Big Five.
Bon. Ouais, exactement. Ouais.
Anne, la première ligue.
Ouais, moi je voulais juste te dire, quand vous dites qu'en Angleterre on joue l'offensive, moi je suis pas d'accord. Je trouve juste qu'en Angleterre il n'y a pas de défense. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui savent pas défendre. On laisse beaucoup d'espace aux attaquants et c'est pour ça que ça paraît plus offensif. Parce qu'il y a beaucoup plus d'espace pour les... Il y a une boulette tous les jours en Angleterre, hein. À part quelques équipes qui s'en sortent. Pour moi, c'est juste qu'il y a un gros problème défensif en Angleterre. Donc après, c'est clair qu'offensivement, on a l'impression d'en voir plus, mais sinon...
Et donc, du coup, ça colle plus de coups pour pouvoir rattraper, quoi.
Mm. Oui, bah, ça, c'est peut-être, on va dire, un petit peu indépendant, mais bon... Je voulais aussi un petit peu parler du fait que les entraîneurs en Ligue 1 prennent des fois et même souvent le risque en fait de ne pas jouer en fait l'offensive et de par le fait ils étaient réduits à attendre l'équipe adverse et à risquer de se prendre un, voire deux, voire trois pions. Alors qu'en jouant l'offensive, ils peuvent des fois créer la surprise. On a vu, on voit des équipes comme Lorient, par exemple. Lorient, c'est l'exemple parfait. Alors, ils ne réussissent pas tout le temps, évidemment, mais Lorient, des fois, ça marche, enfin, même souvent, ça marche dans le sens où Lorient va jouer l'offensive, va regarder contre Marseille, ils vont réussir à leur en planter trois, alors que Marseille en aura mis deux. Donc, je trouve que ça reste quand même quelque chose de dommage de prendre le risque de se faire prendre... deux voire trois buts en lâchant le ballon à l'adversaire que d'essayer de jouer le coup à fond et de se ramener avec les trois points de la victoire. Ouais, Adrien.
Bah tu disais ouais, y a des équipes qui tentent des coups. Bah par exemple derrière moi le Paris Saint-Germain face à Twente notamment. Paul Le Guen a tenté beaucoup de a fait des remplacements judicieux, par exemple remplacer un défenseur pour mettre un troisième attaquant. Faire sortir un milieu défensif pour mettre un milieu offensif, ou encore hier soir quand il fait sortir Julie pour mettre Lindoula, ou pour faire sortir Clément pour mettre Griezmann. C'est Paul Le Guen ces derniers temps veut essayer de jouer l'offensive et je trouve ça plutôt bien pour un entraîneur qui notamment a été décrié ces dernièrement parce qu'on lui reprochait que il joue pas assez l'offensive et dernièrement j'ai trouvé ça intéressant.
Non, c'est vrai, et d'ailleurs on va y revenir. Bah là on va réagir un petit peu sur ce que tu as dit et d'abord Roméo et après je te lancerai Ch'ti. Mais c'est vrai qu'on va y revenir un petit peu plus à Le Guen, c'était un exemple dont je voulais vraiment parler sur l'évolution de cette ligue.
Alors oui, concernant ce que tu as dit Adrien contre Twente que Le Guen a fait rentrer des attaquants en place des défenseurs, mais là ils étaient un peu obligés, c'était une question de vie ou de mort. S'ils marquaient pas là, ils étaient pas qualifiés, ils étaient obligés de s'ils faisaient pas rentrer un attaquant, il était atteint à un cas quoi, à un point phénoménal. Ah,
parce que Paul Le Guen, non mais tu connais pas assez Paul Le Guen, il pouvait très bien de faire sortir un mec comme Lindoula et te faire rentrer Waro, hein. Tu connais pas Le Guen, hein.
Oui, oui. Non, mais oui.
Les années passées, il nous faisait des trucs assez bizarres, hein.
Non, mais Adrien dit ça juste sur l'évolution, quoi, de Le Guen, et c'est ça qui est positif.
Oui, oui, d'accord, ouais, mais on va pas l'acclamer parce qu'il fait des choses normales que tout entraîneur doit faire. Et l'année dernière, il faisait
normal,
des
mais normal, il... toi, mais pas normal forcément pour tous les entraîneurs de Ligue 1. Et c'est pour ça que
je suis désolé. Quand tu dois marquer deux buts pour te caler, il faut faire rentrer un attaquant. Tu vas pas faire du poste pour poste. Là,
Le Guen l'année dernière l'aurait peut-être fait. Mais c'est pour ça que tu tenais à le signaler. On le glorifie pas. Tu me confirmes, Adrien.
Oui, voilà.
Mais il a complètement changé de. Il a complètement changé de de dispositifs, des choses comme ça. Face à Marseille, il avait mis un 4-3-3 offensif. On n'avait jamais vu ça sous l'ère du Paris Saint-Germain avec Sogoen, quoi. Mettre un 4-3-3 avec des joueurs vachement offensifs, et ben c'était pas souvent qu'on voyait ça. Et ce dispositif avait marché pendant 2-3 matchs et c'était plutôt positif, quoi. Et ça montre l'évolution de Sogoen, quoi.
Oui, oui. Et je pense que c'est, je sais pas, toi, tu t'y connais mieux que moi, question Paris Saint-Germain, mais est-ce que cette année, il joue pas plus offensif parce que il a eu des dirigeants qui ont mis la main à la poche pour acheter les joueurs qu'il fallait vraiment au PSG?
Ouais, parce que là, on a du potentiel offensif avec des mecs.
Mettre la main à la poche. J'avais fait la balance de l'équilibre au niveau des comptes du Paris Saint-Germain. Ils ont pas gagné. Ils ont gagné des sous par rapport à ce qu'ils ont dépensé. Oui, voilà. Ils ont pas dépensé, ils ont même gagné. Entre, comment il s'appelle l'autre, là, Diard du Havre, qui est à Middlesbrough, lui, c'est ça?
Ouais.
Donc, ils ont... Ouais, d'accord. C'est que le recrutement était peut-être plus judicieux. Ils ont pas forcément mis la main à la poche, mais ils ont été plus judicieux.
Par rapport aux Souza et Everton, c'est
clair. Ah oui, on est d'accord.
Mais par rapport à Villeneuve comme président...
Bah finalement, Villeneuve, il est plutôt...
Villeneuve, on l'a décrié comme président. J'ai été le premier à le décrier dès qu'on a annoncé sa nomination. Mais je peux te dire qu'il fait un énorme boulot et que c'est un bon président, finalement. Et pour revenir au PSG... Attends, fini, 30 secondes. On a un mec comme Cessignon, comme Waro, comme Juli, qui ont plus d'impact sur le jeu du Paris Saint-Germain par rapport aux années passées. Et ça, c'est...
Adrien, juste, Waro, c'est bien 500 000 euros, tu me confirmes?
Oui, oui, oui.
C'est ça.
Oh, oui.
Ça.
C'est...
Vérifié tout à l'heure.
Ça me faisait rigoler, oui, non, mais c'est pour ça que je repensais au prix du transfert. Oui, vas-y, Chuti.
Non, mais en fait, je voulais pas critiquer Villeneuve, loin de là, mais justement, ça, c'est... lui, il a su oser mettre la main à la poche, et puis en même temps, lui, il avait plus les moyens aussi.
On est d'accord. Et c'est vrai qu'on reste souvent sur cette image de Villeneuve, la vidéo qu'à mon avis tout le monde a vue de son passage à Canal+, où il ne savait pas dire les prénoms de Jérémy Clément ou je sais plus quel joueur du Paris Saint-Germain. Alors ça me fait bien rigoler, mais en tout cas, il est en train de faire ce que personne et beaucoup de... Et personne au niveau des présidents n'a pensé à faire depuis pas mal de temps, faire un recrutement avec des Makelele, Juli comme ça sur deux ans à venir pour voir un petit peu plus pendant ces deux ans pour recruter plus sur l'avenir avec ces joueurs permettent de remonter au 4e place et donc d'amasser de l'argent en Ligue des Champions ou en UEFA. Ce recrutement permet de voir sur l'avenir après. Puisque vous aurez plus les moyens après ces deux saisons passées avec des joueurs comme Juli et Makelele. Je sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais je voulais dire que ce type de recrutement et donner ça à son entraîneur pour revenir avec le fil du débat, c'est vrai que c'est quelque chose d'innovant et quelque chose de bien pensé pour Villeneuve.
Je voulais réagir par rapport à ce que tu disais, je dis tout à l'heure, Villeneuve, il a pas mis la main à la poche, c'est plutôt Bazin, l'actionnaire principal du Paris Saint-Germain, qui ne veut pas mettre la main à la poche pour des transferts du Paris Saint-Germain. Il a jamais mis, nous proposer des millions d'euros pour des transferts. Il a jamais rien donné et cet hiver, il donnera rien du tout. J'en mets ma main coupée et Bazin, c'est un peu radin, quoi. Je suis désolé et pourtant il nous promet des sommes d'argent conséquentes pour les transferts et on a plus rien du côté du Paris Saint-Germain. Et Villeneuve, il essaye de faire son maximum et il n'y peut rien, quoi.
Et il y a aussi ce qui m'a marqué, c'est que Villeneuve à un moment est allé contre la décision de Paul Le Guen parce que Paul Le Guen voulait Briand, mais vu que voulait pas le lâcher à moins de 10 millions, je crois, Villeneuve il a dit non, 10 millions, moi je prends pas Briand, je prends Kezman. Et une autre question, Adrien, est-ce que Wenger il conseille pas Villeneuve cette année, je crois?
Si, il a conseillé sur le plan, sur le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain notamment, et sur comment diriger le Paris Saint-Germain un petit peu. Donc, je sais pas ce qu'il apporte beaucoup. On n'en entend pas énormément beaucoup parler, mais je sais pas ce qu'il donne. Et pour réagir par rapport à ce que tu disais pour Briand et Kezman, Kezman, moi je suis pas tout à fait convaincu encore. Sur les derniers matchs, il était pas, sur ses premiers matchs, il était pas génial. Après, j'espère que ça va. Sur ces derniers matchs, il commence à être un peu mieux dans le jeu, mais lorsqu'il est arrivé, j'étais pas très confiant d'avoir recruté Kezman, quoi. Voilà.
Oui.
Bah, vas-y.
Non, pas du tout. Non. Je dis vas-y.
Ouais, non, c'est peut-être c'est ça la méthode de recrutement qui marche, recruter des anciens cadres pour profiter dans l'avenir, mais pour deux ans, mais en plus en recruter plusieurs. L'année dernière, on avait à Lille, on se souvient du recrutement de Patrick Kluivert, qui avait été amené, bon, vraiment, enfin, c'était d'ailleurs sa dernière saison. Vous voyez que c'était à Paris pour qu'il apprenne beaucoup aux attaquants, mais voilà, il était tout seul et on a plus revu de la saison après.
Oui, mais excuse-moi, mais je pense que Julie Makelele comparé à Kluivert, c'est pas le même standing.
Excuse-moi, mais Kluivert, je sais pas si tu sais, mais il a joué à l'Ajax Amsterdam, au Milan AC, au FC Barcelone.
Et il y a combien d'années?
Ah oui, Makelele, il a joué à Chelsea, il a joué à Real Madrid. Oh, pardon.
Et oui, Makelele, il venait de Chelsea. Et Julie, oui. Il venait de la Roma. Et il a pas passé 3 ans dans un club pourri au fin fond des Ardennes ou je sais pas où.
Des Ardennes, c'est bon, on en a assez avec ta chanson moisie là. Roméo. Je voulais juste citer une petite.
Football, je pense que Kluivert en a bien plus connu que.
Laisse-moi parler. Merde. Je voulais citer une réaction du prof parce qu'ils sont là à nous écouter. Et s'ils étaient pas là, on serait pas là non plus. Réaction de Pouyol qui nous dit que Ben Arfa, le talent, c'est bien sympa, mais si c'est pour le montrer dans 10 ans à Lorient, genre Saïfi, c'était un certain Anto, je sais pas quoi, supporter de Lorient, qui les avait comparés. Donc apparemment, ça pourrait se rapprocher si c'est Ben Arfa qui finirait comme ça dans un club comme Lorient. Kluivert, est-ce que bon bah Kluivert on en a fini parce qu'on va pas revenir dessus sinon Ch'ti va s'énerver et si on le perd on va être pas dans la merde après avec ses parents et tout ça donc
c'est surtout que Kluivert revenait d'une grave blessure quoi.
On va pas l'énerver plus que ça. Non, bah je voudrais revenir un petit peu moi pour finir ce débat parce qu'on y a déjà passé déjà 50 minutes mine de rien, 21h50, enfin un petit peu moins parce qu'on a commencé un peu tard. Sur le fait que les entraîneurs de la DTN, ils sont et ça vous aurez sûrement entendu déjà ce débat là dans d'autres émissions dont je ne citerai pas le nom, mais les entraîneurs qui sortent de la DTN sont formés donc par Aimé Jacquet et ont vraiment le type de 98, c'est-à-dire on a gagné une Coupe de Monde, si vous vous en rappelez bien, avec une assise défensive extraordinaire. Il n'y a pas eu de match extraordinaire non plus en 98, à part peut-être contre l'Arabie Saoudite en phase de groupe, mais c'était l'Arabie Saoudite. Je crois qu'il n'y avait pas eu 4 buts hormis ce match-là. Donc on avait bien vu que comparé à une Espagne qui gagne l'Euro cette année, qui gagne un euro d'une façon en plantant presque 3 buts à chaque fois à part à l'Italie parce qu'il y a que la squadra l'Espagne n'a pas battu. On voit que c'était cette génération 98, elle prenait donc les options défensives et on a gagné comme ça. Et donc on veut rester comme ça a été la seule victoire du football français, on veut y conserver une place importante dans le futur. On se dit on va peut-être arriver à gagner comme ça et non. Et je voulais finir mon petit interlude sur le fait que comment il s'appelle le Bordelais Laurent Blanc, voilà, avait dérogé à cette règle-là, pourtant il est sorti de la DTN, et en tant que jeune entraîneur, il avait renouvelé l'équipe de Bordeaux, qui est en train de subir un total changement dans le fond du jeu, et moi je trouve ça vraiment bien que des entraîneurs même qui sortent de la DTN ne soient pas dans cet exemple type du on défend tous à 10 derrière, et je trouvais que je tenais à féliciter Laurent Blanc qui, à mon avis, s'il continue des telles performances, ne va pas rester très longtemps à Bordeaux, et peut-être que lui, il a déjà personnellement des objectifs hors de Bordeaux, donc je pense que qu'on est dans une phase où peut-être on va avoir arrivé des entraîneurs qui pourraient renouveler le niveau de la Ligue 1. Voilà, je voulais
la place de Domenech peut-être.
Bon bah pourquoi pas, moi je serais pour parce que vu ce qu'il accomplit à Bordeaux alors que ça fait 1 an et demi qu'il est entraîneur, ça me plairait beaucoup. Je finirai là-dessus et je vous remercierai donc pour ce débat animé. On va rendre l'entraînement. Non, je blague. Adrien, t'as un petit dernier truc là-dessus et puis après on va passer au bilan que chacun va faire sur ses clubs. Vas-y Adrien.
Ah non, pas du tout. J'avais rien à dire en fait. Hein.
C'est ma gueule. Bravo, j'ai la chance que toujours c'est Noël et que je suis calme à cause de ça. En plus, on est en vacances tout le monde, donc on peut se faire plaisir. C'est Génération Soccer. On enchaîne donc avec le bilan des clubs et on va commencer. Putain, c'est de la merde. Si on a deux Marseillais à l'émission, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire un bilan de Marseille 40 fois. On va commencer par Paris parce que moi j'aime bien Paris.
On
va
faire un bilan de Servette.
Servette, on s'en fout. C'est pas Servette, en ligne.
Sérieux?
Non, ça sera à la fin. Adrien, fais-nous Adrien le bilan du PSG pour toi. Qu'est-ce qu'il y a à retenir en ce début de saison?
Guillaume Moirot. Non, bah cette quatrième place qui est vraiment très satisfaisante vu nos deux dernières saisons qu'on a passées dans les profondeurs du classement. Donc cette quatrième place satisfaisante et pourquoi pas accrocher la Ligue des Champions en fin de saison, un recrutement assez judicieux du côté du Paris Saint-Germain avec pour aller l'expérience et la jeunesse, donc Makelele, Julie et puis les jeunes comme Waro. Donc Waro deuxième meilleur buteur de Ligue 1 alors qu'il vient de Ligue 2. C'est vraiment une très bonne prestation de sa part et j'espère que par la suite il continuera de aussi bien marcher au sein du Paris Saint-Germain.
OK.
Sinon on est satisfait de Landreau, il ne sort pas de boulettes. Voilà. L'évolution de Paul Le Guen, comme on en a parlé tout à l'heure. Je sais pas si vous voulez rajouter un petit truc,
Non. Bon, moi, je voudrais dire quand même bravo à Le Guen qui a réussi à inverser la tendance. Je finirai justement sur le sujet tout à l'heure. Voilà, je me suis rappelé de ce que je voulais dire sur Le Guen. Je commence à modifier ma vision de lui et je voulais dire justement qu'il s'enflamme pas et c'est ça qui est bien parce que Le Guen, il a tellement été critiqué l'année dernière que vu les résultats, il pourrait vraiment jubiler à l'intérieur de lui. Et finalement, il s'enflamme pas. Là encore, le match contre Valenciennes ce week-end est entaché d'un but refusé qui était valable. Il n'a pas critiqué l'arbitre outre mesure. Il a même dit que la faute est humaine et que ça peut arriver à tout le monde. Donc, franchement.
Oui, mais parfois, Paul Le Guen est un peu trop gentil. Donc,
Oui, que ça soit avec les joueurs ou avec les entraîneurs. Mais bon, je trouve que le fait de pas s'enflammer a félicité. Et donc, moi, vraiment, ce que je voudrais retenir en ce début de saison, c'est le recrutement totalement réussi du Paris Saint-Germain. Et peut-être, il faudrait prendre exemple sur Charles Villeneuve. Et aussi la réussite d'un mec comme Waro qui a été acheté, rappelons-le, 500 000 euros. Donc, pour moi, c'est ces deux choses-là à retenir. Et je dis à Paris, pourvu que ça dure, parce que comme c'est difficile de leur fixer des objectifs, moi, je suis dans tu vois de ce que je veux dire, dans cette optique-là pour Paris. Moi, je pense vraiment que 2-3e, ça serait possible pour
c'est largement envisageable. Hein, vu notre première partie de saison très convaincante, et on se dit qu'on aurait pu prendre un peu plus de points si on n'avait pas fait quelques petites bêtises face à Grenoble ou face à Toulouse. Donc, pour moi, ouais. je suis confiant pour la suite, mais on. Faut pas s'enflammer parce que le Paris Saint-Germain tout peut arriver, on le sait bien.
Ok, bon, on comprend vraiment ce que tu as ressenti au cours de cette première partie de saison. Est-ce qu'il y a un peu un engouement retrouvé au Parc des Princes?
Ah bah il y a vraiment une super ambiance au Parc des Princes. On voit en plus les joueurs qui communient avec les supporters. Quand on voit que Lundula, quand il marque, il va voir Boulogne-Hauteuil-Rotten encore hier soir qui va fêter son but avec les supporters, c'est vraiment ça fait plaisir à voir en tout cas du côté du Paris Saint-Germain et au Parc. Hier il avait 43 700 spectateurs, le record de la saison je crois. C'est vraiment énorme quoi et ça fait plaisir quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est bien de retrouver cette ferveur autour du Parc des Princes. Donc moi je suis vraiment vraiment content pour les Parisiens, donc pourvu que ça dure comme on a dit. On va passer maintenant au bilan de Marseille que je vais d'abord te lancer Helvetia, comme t'as pas beaucoup parlé, tu vas me dire un petit peu ce que t'as retenu de Marseille avec ta vision de Suisse très loin de chez nous, derrière les montagnes là-bas, derrière les Alpes, le Suisse caché à Genève. Donc est-ce que tu pourrais nous dire ce que t'as retenu de Marseille en début de saison et qu'est-ce que t'envisages pour la suite?
qu'est-ce qu'on peut retenir de Marseille dans le début de saison? Qu'ils sont pas entièrement répondu aux attentes, qu'il y a des on parlait d'un recrutement excellent au début de saison, qui s'est alors transformé comme un recrutement, je dirais pas pourri, mais recrutement très 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 moyen avec un Guéretz qui peut-être pas ne perd pas les pédales, mais commence tout doucement à lâcher alors qu'il était pressenti comme le meilleur entraîneur pour l'Olympique de Marseille depuis un bon nombre d'années. C'est peut-être le cas, mais il manque encore quelque chose à prouver. Un Marseille qui alors qu'on début de saison, on a tout le monde sait, une défense Hilton Rodriguez, qui promettait une défense qui alors est vraiment le gros point faible de l'équipe. Un Mandanda qui n'est vraiment pas à l'auteur de sa première saison en Ligue 1. Il y a eu une sacrée baisse de niveau dans cette équipe entre la fin de saison dernière et cette première partie de saison. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la deuxième partie de saison? C'est avant tout, avant d'entrevoir toute chose, c'est un recrutement au moins bon, si ce n'est excellent, avec au moins 3-4 joueurs qui arriveraient au club, un à chaque ligne si possible. Mais sinon, c'est clair que l'avenir est assez dans le brouillard pour l'Olympique de Marseille sans qu'il y ait il y aurait de recrutement pour nous.
Ouais, t'es d'accord avec ça, Roméo?
Ah oui, je suis tout à fait d'accord.
Rien à rajouter.
Alors pour mon bilan, il y a une chose que j'ai retenue, je vais la dire tout de suite, c'est Karim Ziyech.
Ah oui, c'est vrai.
Un début de saison extraordinaire qu'il place en ce moment dans les meilleurs joueurs de Ligue 1. Après, autre chose, la confirmation de Chérou. Mais malheureusement, la défense encore, j'irais encore moins bonne que l'année dernière.
Elle est de pire en pire.
Oui, parce que si je devrais dire, les latéraux sont même Bonnard confirme a du mal à confirmer sa bonne saison de l'année dernière. Il est pas super en ce début de saison. Je retiendrai aussi le fait qu'on ait raté trop d'occasions pour recoller à Lyon. Il y a plusieurs fois, il y a eu des occasions de revenir à égalité pour ces matchs face à Lorient, face à Nancy, ça avait pas été face à Paris au Vélodrome, ça avait pas été foiré. Il y a eu des occasions pour passer en tête. Sinon, on a l'impression que l'équipe est un peu en sous-régime, qu'elle peut faire mieux. Et on a vu là sur ces derniers matchs que malheureusement elle est dépendante de Niang. Hein. On dit que Niang est pas assez bon finisseur, mais malheureusement il c'est peut-être le meilleur finisseur qu'on a dans l'équipe, alors que c'est même pas son poste naturel. Et comme l'a dit LVC, il va falloir un gros recrutement. On a une tonne d'ailiers, on a une tonne de défenseurs centrales, mais on a aucun bon défenseur central.
Pas plus, Roméo, parce que c'est après la partie recrutement, donc tu vas pouvoir te lâcher après, tu vas pouvoir.
Voilà.
Tu vas pouvoir te défiler après, tu vas pouvoir faire ta première gueulante.
Vous aurez d'ailleurs remarqué que je n'ai pas non plus pas félicité la défense centrale, bien qu'il y ait un Hilton, et surtout je l'ai pas mis en
avant. Je suis tout à fait d'accord. Ah oui, avec quand il y a eu le recrutement de Hilton, je me rappelle, tout le monde s'exclamait, ouais, super Hilton, alors que j'étais un des seuls qui est
c'est bon, on prend la grosse tête.
Non, c'est pas question de ça, mais Hilton c'était on a vu ce qu'il a donné. Sinon, il y a aussi une petite déception. qui a ça m'a franchement déçu. C'est Bami qui a pas fait un bon début de saison et qui avait fait une très bonne fin de saison l'année dernière qui était extraordinaire, et là cette saison il est
un peu loin en disant extraordinaire, je trouve, vite fait.
Non, je rigole pas, hein. L'année dernière c'était franchement un de nos meilleurs joueurs, non, au poste de milieu défensif.
Extraordinaire, ça fait bizarre quand même.
Non mais je t'assure, l'année dernière il était franchement énorme. Je sais pas si Valentin pourrait me soutenir un peu. Oui, donc et
Mbami, c'est un travailleur de l'ombre. Moi, il m'a jamais bien plus que ça. J'ai toujours préféré un milieu entre Sherwood et Sanan. C'est vrai que le travail de Mbami était quand même très très bon la fin de saison de passé quand Sanan était redescendu en défense centrale. Après, c'est clair que c'est pas le joueur qui va faire lever les foules, qui va faire bander tout le monde. Non, c'est un joueur qui est un bon joueur de Ligue 1. Après ça, on peut pas dire grand chose en plus.
Oui, et donc je dirais aussi oui, Mbami, j'ai l'impression qu'il a un peu la tête ailleurs, qui déjà l'été dernier il avait évoqué son désir de partir parce que il voulait aller dans un grand club, et parce qu'il y avait des clubs anglais qui le pistaient. Il voulait partir dès l'été dernier pour que l'OM touche une indemnité, parce que il est libre en juin prochain, et je pense que certains clubs vont essayer de l'acheter libre en transfert libre. Donc voilà, pour essayer de titiller Lyon, j'attends un vrai buteur, un finisseur, et au moins deux défenseurs centrales.
Bon, bah on en reparle après, évidemment, Méo. Maintenant, je vais te passer la parole, Anne. Honneur aux dames dans cette émission. On n'a pas beaucoup, donc on leur donne la parole. Et donc, tu vas nous faire un petit peu le bilan de cette première partie de saison avec Toulouse, qui est somme toute vraiment bien réussie.
Ouais, très bien réussi, moi je dirais, parce que Toulouse, ils sont 7e avec 31 points. Et faut savoir que à ce moment-là de l'année, c'est le maximum que Toulouse ait fait. Donc, en plus, si on regarde comment était Toulouse à la fin de saison dernière, je pense que personne ne les voyait ici. Il faut savoir qu'ils ont perdu, c'est-à-dire Duchesse, Arribagé, Juz, Emana, Elmander, pour citer qu'eux. Il y a aussi eu l'arrivée de Casanova, qui donc personne connaissait vraiment Casanova, parce que faut savoir que c'est sa première année en tant qu'entraîneur. Avant, il était adjoint pendant une dizaine d'années à Toulouse, et on a vu peut-être qu'il avait moins de talent dans l'équipe, mais il a créé une équipe vraiment solidaire où les joueurs le disent eux-mêmes, ben tout se passe bien, etc. Gignac finit meilleur buteur. Je pense qu'on a un très grand attaquant, si ce n'est l'un des meilleurs, peut-être même le meilleur attaquant de la Ligue 1, selon moi. Bon. On reproche aussi à Toulouse le jeu défensif, mais faut savoir que c'est une équipe en reconstruction au départ. Et voilà, j'aimerais juste appuyer sur ce point, que c'est peut-être une équipe défensive, mais ils en avaient besoin. Et on l'a vu, les matchs où ils étaient plutôt offensifs, c'était contre Auxerre en Coupe de la Ligue, ils se sont fait éliminer. C'était contre Saint-Etienne, c'est passé, mais contre Nice samedi, bah c'est pas passé, ça a fait les 2-2, donc je pense qu'il faut encore du temps pour qu'ils prennent plus de risques.
Ok, bon, on est d'accord. Un petit mot sur Dido, on sait que Rognetto l'aime bien.
Oui,
Tu l'as apprécié aussi, toi, en ce début de saison? Il t'a frappé au pied, Mana?
Énormément, parce que Dido, il est très technique. Je sais pas si vous avez vu le match contre Nice. Il fait ce qu'il veut du ballon, en plus il a une mentalité... Parce que Emana, moi, s'il y avait un petit truc que je pouvais le reprocher, c'était d'être très irrégulier. Et Dido, sur chaque match, il est là, il est présent, et il donne tout ce qu'il a. Et donc moi, je trouve que c'est sûrement l'un des meilleurs joueurs qu'on a aussi au TFC en ce moment.
Ok. Je dis une petite réaction sur Toulouse.
J'ai l'impression que Toulouse est composé de gars qui sont dans une saison où ils ont vraiment besoin de confirmer. Peut-être il y avait beaucoup de cadres l'année dernière qui sont partis, et donc j'ai l'impression que ceux qui composent l'équipe de Toulouse, c'était d'anciens remplaçants qui ont pu se montrer et qui cette année arrivent à confirmer.
C'est un mélange, ouais. En fait, c'est un mélange. Il y a des joueurs qu'on n'attendait pas. Il y a aussi beaucoup de jeunes. Hein. Je crois que c'est l'une des meilleures défenses de Ligue 1, et il faut savoir que la défense, Casanova, il a essayé beaucoup de jeunes, hein, donc pas forcément des remplaçants.
Ok. Bon, ben une petite chose pour finir, Roméo, sur les Toulousains. Oui. Moi, je finirai aussi avec une petite remarque. Vas-y.
Oui, oui, pour Toulouse, j'ai l'impression que cette année, Toulouse, c'est l'exemple même du renouveau. C'est une équipe qui est en plein renouveau avec Dido auquel on faisait plus confiance à Rennes, qui se relance à Toulouse, qui fait une des meilleurs débuts de saison hier. Congré au poste de latéral qui est vraiment excellent. Le jeune arrière gauche dont j'ai oublié le nom qui est arrière gauche et maintenant Mathieu ailier gauche et
Junia. Tu veux dire Mbengue?
Oui, je crois c'est ça.
Ouais.
Oui, bref, et Gigna qui est exceptionnel.
Mais bon, on fait pas le tigre,
exceptionnel, mais... donc qui est exceptionnel au poste de buteur. Voilà, je pense que c'est.
Ouais, Gigna qui fait une excellente
saison. Il y a un renouveau.
Bah, Gigna, voilà, je pense que Gigna, c'est l'exemple de Toulouse, en fait. Pour moi, c'est le symbole. C'est, ouais, l'année dernière, il a fait une très mauvaise saison. Cette année, moi, j'ai vu le match contre Nice. Il est partout, hein. Il fait des centres, il tire, enfin, il crée.
Bon. Donc ouais, exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et Gignac, oui, j'ai l'impression que c'est un peu le fait que l'année dernière on s'obstinait à mettre Elmander alors que des fois il était pas si performant que ça. J'ai l'impression que maintenant avec le départ d'Elmander, que Gignac c'est maintenant il est sûr d'avoir sa place en tant que buteur, et il est en pleine confiance et voilà, il est meilleur buteur, voilà.
Ouais, oui, sur Elmander, je voulais sur Elmander, j'aimerais juste revenir. Elmander, c'est vrai qu'on en a fait beaucoup, on en a parlé énormément à Toulouse, mais il faut savoir que Elmander, c'est 11 buts les deux dernières années, dont plusieurs triplés. C'est-à-dire que moi, Elmander, ce que je le reproche, c'est il y a des jours, il va mettre un triplé et puis pendant deux mois, il va plus rien faire. Voilà, c'est alors que Gignac, c'est quand même déjà 12 buts, donc c'est plus qu'Elmander en la moitié d'une saison.
Ouais, mais je suis tout à fait d'accord.
Ouais, c'est bon, Roméo, c'est bon. C'est parce que t'as parlé à une fille.
Arrête de faire le marron.
Ça y est, il est trop heureux, là. Pour une fois qu'une fille lui dit je suis d'accord avec lui, ça y est, il en peut plus. Bon, bah, merci bien, Anne. C'était assez complet aussi. Bah, tu nous diras un petit peu ce que t'aimerais bien, ou ce que t'aimerais pas pour Toulouse, pendant ce mois de janvier. Est-ce que tu préfères que l'effectif reste comme ça, ou est-ce que t'aimerais bien un renfort à un poste? Donc, maintenant, on va passer, il reste plus que deux clubs, Lille et Monaco. Bah, on va donner déjà la parole aux gens du Nord et à toi, Ch'ti. Qu'est-ce que tu retiens de cette saison?
Comme chaud.
Et qu'est-ce que t'as bien aimé, est-ce que t'as un petit peu moins apprécié?
Ben, déjà, je veux dire que pour le LOSC, c'est bon, il n'y a pas que lui. On termine plutôt sur une bonne note comparé à ce qu'on avait espéré au début de saison. On avait perdu Puel et Makoun. Et puis au début de saison, on peut pas dire qu'on avait vraiment la tête à sourire.
Quoi?
Qu'est-ce qu'il y a?
Non, rien, vas-y.
Ah oui, effectivement, c'était vraiment pourri.
On n'avait pas de quoi sourire en ce début de saison, et ça commence à revenir. Mais après, il y a eu les erreurs défensives qui sont revenues. On a eu droit à Adil Rami contre Paris et le but qu'il met à la place de Gamero contre Lorient. Et là encore, on se retrouve. Mais Lille, ça a toujours été une équipe assez inconstante, mais qui arrive à aligner quand même plus les victoires, et ça fait plaisir.
Bon, c'est assez rapide ce que tu
ouais,
nous as dit.
Je sais, parce que sinon je vais en parler pendant 3 heures, je ne vais pas savoir m'arrêter.
Non, juste un petit mot sur votre nouvel entraîneur, t'en as pensé quoi?
Garcia, franchement, j'en pense vraiment beaucoup de bien. Il y a su... On avait tous craint le départ de Puel et on avait tous eu peur que Garcia soit pas à la hauteur. Ben non, il est arrivé du Mans, qui le Mans aussi avait fait une saison correcte.
Il est arrivé vraiment à faire quelque chose de bien avec peu de moyens au Mans, et il avait vraiment sorti des bons joueurs. Il y a deux saisons, il avait sorti comment il s'appelle, je me souviens plus de son nom. Enfin, il a sorti l'année dernière Romaric, les Gervinho, voilà, j'ai retrouvé ses graffités il y a deux saisons.
Et encore, Et encore l'an dernier, il avait encore des joueurs comme Cessegnon, comme Matsui et Demelo.
Ouais, ouais, franchement, il avait fait vraiment des belles choses avec, avec Le Mans, et donc il confirme là en ce moment avec Lille. On va finir avec toi, Hugo. Oui, vas-y.
Sinon, c'est la grosse satisfaction, c'est le milieu de terrain, bien qu'on manque un énorme potentiel avec Bastos, Obraniak, Mavuba et Kabay. Après, Balmont, qu'on a un peu moins vu ces derniers temps. Et en plus, j'ai dit Mavuba. Et en plus de la petite perle Eden Hazard, c'est dommage qu'on n'ait pas un vrai joueur. On attend le retour de Demelo, mais là, après, ça devrait encore mieux aller.
Ok, ok. Hugo, vas-y pour finir Monaco. Alors là, par contre, on risque pas d'avoir de très très bons échos, mais bon, on va. Je te pose quand même la question. Qu'est-ce que tu retiens de ce début de saison plutôt merdique?
Ricardo.
Hugo, où est-ce qu'il est? On l'a perdu.
Il fume du shit.
Non, là, t'aurais dit. Je vais parler à sa place parce qu'il est plus là. Il vient de partir, ça devait lui casser les couilles. Il va en avoir marre quand ça parle des bonnes choses de Monaco, il s'en va évidemment. Donc je vais parler à sa place. Qu'est-ce qu'il y a de bien à retenir du côté de la principauté? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à retenir? Beaucoup de choses. Je vais essayer d'être concis et synthétique. C'est compliqué parce qu'il y en a vraiment beaucoup. La plus mauvaise, c'est l'effectif qui est de piètre qualité, avec vraiment des joueurs qui sont plus mauvais les uns que les autres. Un centre de formation qui nous affiche quand même quelques bonnes perles comme Molo, Gakpé, Bakar, qui est vraiment moi je trouve en dessous de tous ces joueurs là, mais qui arrive quand même à sortir quelques bons joueurs. Le fait d'avoir un effectif de piètre qualité s'explique en partie par le manque d'argent, de moyens de Monaco, et ce depuis déjà beaucoup d'années, même depuis les années 2000-2001. Le trou à Monaco est exceptionnellement profond. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a aussi une recrudescence du côté de Monaco des abrutis. On a de bons teints à la tête, celui qui l'a quand même viré des mecs qui étaient déjà en poste depuis très très longtemps à Monaco. C'est vraiment 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 dommage. Il y a une perte d'identité complète de l'AS Monaco avec un multinationalisme avec des, je crois que je dénombrais l'autre fois pas moins de 13 nationalités différentes, alors qu'on a une trentaine de joueurs, ça fait presque une nationalité différente tous les deux joueurs. C'est vraiment dommage qu'il est en train d'arriver à Monaco. Alors une fois on a une irrégularité criante qui fait qu'on va conserver Ricardo, une fois on a une victoire, deux nuls, une défaite, une nouvelle victoire, parce qu'on a un président qui ne connaît strictement rien au foot, puis vraiment déçu. Et j'espère le seul truc qu'on peut espérer pour la deuxième partie de saison, d'être moins pire qu'en cette première partie de saison, donc d'être aux alentours du milieu de tableau, on peut espérer que ça. Si le fait d'être au milieu de tableau peut nous rapporter un petit peu plus d'argent qu'être vraiment au queue de peloton. Ouais, Anne.
Ce que je voulais dire, mais je crois que tu l'as un peu dit. Moi, j'ai l'impression que Monaco c'est une équipe qui n'a pas d'âme quand on les voit sur le terrain, mais ça c'est depuis l'année dernière. Enfin, je me demande parfois qu'est-ce que les joueurs font sur le terrain. Enfin, et c'est étonnant de voir ça. Bon, même si en Ligue 1, on reproche beaucoup de choses aux équipes, c'est vrai que Monaco, je trouve qu'il manque quelque chose, mais je sais pas quoi.
Ouais, c'est ça, oui, cette envie, cet engouement qui devrait y avoir autour de l'équipe. Alors déjà, par le manque criant de supporters, ça on se répète tout le temps, et aussi par le fait que l'entraîneur n'instaure aucun ordre dans cette équipe qui déjà est composée souvent de joueurs qui viennent ici pas en pré-retraite, hein, parce que la grosse satisfaction, si on en a retrouvé une, c'est Darius Milic, exemple de professionnalisme du côté du Milan AC qui continue à être très très bon, sûrement le meilleur joueur depuis le début de la saison du côté monégasque. C'est ça quoi, il y a un manque, une espèce de manque d'esprit, de mentalité dans cette équipe qui fait que il y a une perte totale d'identité dans cette équipe monégasque. On a retrouvé Hugo, je lui laisserai la parole d'abord, Chiti et Roméo, et après je te donnerai la parole Hugo pour dire ce que t'en as pensé de cette première partie de saison. Vas-y Chiti.
Ben, c'est surtout qu'à Monaco, on sait, il y a une fiscalisation assez particulière. Je vais pas rentrer dans les dessous parce que j'y connais strictement rien. Qui a un gros trou financier déjà depuis les années 2001. Qui est, et d'ailleurs, Monaco ne survivait, entre parenthèses, que grâce à la Ligue des Champions. Alors, à partir du moment où Monaco a raté la Ligue des Champions après, ben, ça c'est
la tout ça. On a, ça a été un tout, donc on a rien pu faire. Ça s'est tout engrainé et en quelques saisons, on s'est retrouvé avec des effectifs piètre qualité, car on n'avait pas les moyens de payer autre chose, quoi.
Ah ouais, mais là, en deux saisons, je sais pas, en attaque, on est passé de Juli Perso et Morientes à Chivanton et Calon. Alors, franchement.
Ouais. Bah, Chivanton, il était pas mauvais.
Chivanton était pas mal, mais il accumulait les blessures, c'était hallucinant. C'était vraiment un joueur en carton. Mais il était vraiment pas mauvais. Techniquement, il y avait un certain potentiel. D'ailleurs, même en Italie, il avait il était pas mal. Une petite réaction de Roméo aussi sur Monaco.
Oui, sur Monaco, moi je retiendrai aussi une chose, c'est De Bont, hein, à qui je mettrai un gros malus parce que il l'a dit qu'il avait acheté en clair, qu'il a dit qu'il avait acheté Park et l'autre là, comment il s'appelle?
Adou.
Adou, voilà, pour s'exporter à l'étranger, voilà, pour vendre Monaco au Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis.
Ah pas oui, parce on que rentre dans le business. Business. Hein. On rentre dans le business de maintenant, oui, c'est ça, malheureusement. Et Monaco est en train de rentrer de plein pied avec De Bont. Hugo.
Malheureusement, oui. Le problème, c'est que dans ce foot business, faut savoir mélanger et connaissances footballistiques avec le sens des affaires. Bon.
C'est ce que fait Jean-Michel Aulas.
Aulas arrive à le faire avec De Bont, lui qui n'y connaît rien au foot, ben, voilà, ça se rétame.
Vas-y, Hugo, dis-moi un petit peu ce que t'en as pensé. Je sais pas si t'as entendu un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, mais, essaye, moi, je pense que tu vas être un petit peu de notre avis.
Ah, malheureusement, je ne l'ai pas entendu, mais. Et bon, ce que je pense de ce début de saison, c'est que c'est horrible, quoi. On est 14e, on est à 5 points du premier relégable. On est à 3 points de Nantes, on montre rien sur le terrain. Les peu de matchs qu'on fait, c'est contre des équipes, je qualifierais en carton. Et contre les équipes un peu meilleures, on se trouve. On est incapable de faire deux matchs d'affilée, donc on est dans la merde, quoi. Hein. Sauf avec Ricardo, puisque l'effectif, on l'a, mais l'entraîneur, on l'a pas, malheureusement.
L'effectif, je suis pas totalement d'accord avec toi, mais bon. On a bien compris que tu étais quand même du même avis que nous tous. On est vraiment dépité par le fait actuel de la situation de Monaco. On ne sait vraiment pas comment Monaco va pouvoir s'en sortir et ça ne saurait peut-être qu'empirer les saisons prochaines. On va passer maintenant au bon coup du mercato de cet hiver. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être bien sur le marché? Dites-moi vos réactions. Ah, il y a une petite réaction de Pouyol sur le forum, on me dit. Pouyol qui dit « Mais Ricardo n'est pas un mauvais entraîneur si les dirigeants lui avaient donné un effectif potable et lui, il en aurait fait de bonnes choses. » Il a pas tort d'un côté, même si Ricardo n'entraîne rien autour de cette équipe, ne crée pas d'esprit de groupe, pardon. Il ne crée pas une équipe collectivement intéressante et ça, on peut lui reprocher réellement. Oui, Hugo ?
Je trouve que, enfin, on s'est trompé largement sur Ricardo, quoi. Peut-être que c'est un bon entraîneur, mais c'est pas un bon entraîneur pour Monaco, c'est tout.
Ok. Bon, d'accord.
Puis Lee qui fait le ménage.
Bah, tu sais, De Bont a commencé à le faire n'importe comment, donc Lee pourrait tout aussi bien le faire que De Bont. Donc on va passer enfin au mercato. Avec, pour commencer, Roméo, qu'est-ce que tu préconiserais pour Marseille et des noms surtout, c'est ça qu'on aime bien entendre. Qu'est-ce que tu verrais, qu'est-ce que tu aimerais bien pour Marseille?
Alors déjà pour commencer, une nouvelle défense, Comme nous, bah, c'est simple, il y a Bacha, qui, je sais pas si vous connaissez, hein, Marco Bacha, l'ancien joueur du MUC, il est parti au Lokomotiv Moscou cet été, mais il a pas joué un seul match. Et il a évoqué son désir de revenir en France, donc pourquoi pas lui en défense centrale. Après, il y a aussi Daniel Van Buiten, qui a dit que si Marseille lui proposait, il dirait pas non. Maintenant, c'est aux dirigeants de mettre le paquet, de mettre l'argent. Il y a aussi, j'ai oublié un autre nom. Il y a aussi Onyewu du Standard de Liège. Voilà, l'Américain qui il y a ses pistes en défense centrale. Après, comme buteur, on entend beaucoup de noms et n'importe quoi. On entend Lucas Podolski, mais il viendra pas à Marseille. Il veut revenir dans son club formateur à Cologne. Et il y a aussi Savidan, mais Savidan, Caen ne le lâchera pas. Et il y a, si je puis dire, deux rumeurs encore. C'est Jovanovic. À mon avis, ça sera lui. Je pense que Guiretz pense à lui. Et il y a aussi Wagnerlov, le Brésilien du CSKA Moscou.
Faut pas y penser à ça. Hein.
Comment?
Faut pas y penser à Wagnerlov. Hein. Si Wagnerlov, il part du CSKA Moscou pour aller à Marseille, comme tu as dit dernièrement, je me coupe la main, quoi. Faut arrêter, hein.
Wagnerlov, t'as dit les couilles. T'as dit, tu te coupes.
Je veux pas être vulgaire.
Messieurs, on a une dame présente avec nous dans l'émission.
Oui. On reste voilà, c'est direct. Pour ça. C'est pour ça que j'ai pas voulu être vulgaire.
Bah, c'est toi la dame. Oui, donc je disais ou sinon bah aux dirigeants. Comment?
Tu peux parler.
T'as un problème toi?
Oui, les dirigeants.
Aux dirigeants de nous sortir un bon coup aussi. Ouais, aux dirigeants de nous sortir un bon coup. Il n'y a pas qu'en Ligue 1 où on peut recruter un bon finisseur. Voilà. J'ai dit mes idées.
Ch'ti, une petite réaction par rapport aux idées justement de Roméo.
Non, moi je vais pas parler de ça. Moi je vais plus réagir. Il y a eu des prolongations de contrat récemment. Alors Machado pourrait prolonger avec Saint-Etienne jusqu'en 2011. Enfin, si l'option d'achat est relevée, il se pourrait qu'il y ait une prolongation jusqu'en 2011. Et à Barcelone, Sergio Busquets a prolongé pour 4 ans. Bon, vous connaissez peut-être pas Marvolo pourrait
vous en dire plus. Avec la pour ça, mais.
Ouais, mais voilà, justement, c'est bien ce que je dis. Et sinon, oui, mais... juste parce que vous êtes là, il se pourrait qu'il y a un jeune de Monaco, Thomas Mangani, qui soit prêté. Alors, je l'ai vu évoluer à Brest il y a 2 saisons. Je l'avais trouvé pas mauvais. Et comment a-t-il évolué? Ça, je voudrais bien savoir.
Bah, il joue strictement jamais avec les joueurs de la principauté. Il a peut-être fait des apparitions avec la CFA, mais sinon il est tout le temps sur le banc, ou il a peut-être fait une apparition en coupe. Donc Mangani, on peut vraiment pas le juger par rapport à ce qu'il a pu faire avec Monaco, car on ne l'a presque pas vu de la saison.
En plus, la saison dernière, il était prêté, non?
Oui, il me semble aussi. Il a été prêté deux saisons de suite. Je ne pourrais plus te dire exactement où, mais
Brest et Ajaccio.
Ouais. Hugo, sur le recrutement de l'OM.
Ah, c'est... Je sais pas à quoi ils s'attendent, l'OM, mais peut-être. Alors, bien se marrer quand même, hein. Ils vont être bien déçus parce que, à mon avis, ils s'attendent à la paire, le Football Manager, quoi. C'est clairement ça, ils attendent un gars pas trop cher qui est bon et au mercato d'hiver, quoi. Donc, c'est quasi impossible.
Oui, c'est vrai que comme on disait tout à l'heure, c'est assez difficile de bien recruter et vraiment faire un bon coup l'hiver. En ce mois de janvier, oui, mais il arrive en fin de saison. Ou alors peut-être parce qu'il y a un temps d'adaptation nécessaire, et ce temps d'adaptation, il n'a pas le temps de se faire souvent pendant le mois de janvier. Si Cavenaghi, il me semble qu'il arrive en milieu de saison à Bordeaux, et enfin ouais, quoique c'était Ricardo qui l'avait amené et il avait. Non, il n'est pas arrivé en milieu de saison.
Non, je crois qu'il est arrivé à la fin de la saison à
tout de. Il était arrivé en début de saison parce que c'était à la fin du championnat russe, et le championnat russe c'est sur l'année, pas sur l'année civile. Donc il est arrivé au mercato d'hiver, oui.
Ah bon. Ah, quand même.
Une locomotive Moscou.
Wishti.
Ouais, c'est encore une rumeur. C'est apparemment le Milan AC pisterait Stéphane Mbia qui voulait tout préparer.
Oui, non, mais ça c'est une rumeur mercato. Ouais. On n'en veut pas, ça, c'est bon.
En plus, ça va finir à la Gourcuff, c'est-à-dire voilà, faire du. Ouais,
ça va même pas, ça va même pas s'ouvrir ce dossier-là, parce que Mbia. Alors, si Italiani fait ça.
Quelques matchs et puis voilà, on en parle plus. On retourne en France.
Ok. Malheureusement, oui, c'est vrai, c'est si beau de parler de l'Italie. on va passer maintenant à Helvetia qui avait justement des petites choses à dire un peu sur le recrutement de Marseille tout à l'heure et je l'avais coupé pour qu'il ait en garde sous le pied. Vas-y Helvetia, dis-nous un petit peu ce que tu avais à dire tout à l'heure.
Le recrutement qu'on voit à Marseille, il est à l'image d'un peu tous les supporters. Hein. Un ou deux défenseurs centrales et un buteur qui donc pourrait donc comme on l'a dit, ça pourrait être Jovanovic. Après en défense centrale, il faudra absolument trouver le bon joueur. Même s'il n'est pas connu, même si c'est pas un gros nom, il faudra trouver le bon joueur. Il y a des recruteurs à Marseille, ils ont déjà prouvé que pendant un mercato d'hiver, ils peuvent trouver le bon joueur. Avec Julien Rodriguez il y a maintenant il y a deux ans. Il va falloir trouver le bon joueur. Et ça, c'est on compte sur les recruteurs de l'Olympique de Marseille pour le faire, même et si et le joueur recruté ne doit pas venir de Ligue 2 où on ne sait quelle sous-division européenne.
Du défenseur central, Anne Nigo serait en train de pister Servette. C'est
insulte pas notre Anne à nous, hein, Anne Nigo, mais qu'est-ce qu'il
Non, excuse-moi, Anne, pardonne-moi. Oui, il serait en train de pister Servette Cetin, le défenseur
du. Il a un bon nom, lui.
Bon, ça vaut pas Nkouyoulou.
Nkoulou.
Mais imaginez-vous voir un maillot de l'Olympique de Marseille marqué derrière Servette.
Alors là, on peut dire qu'il va être tapissé dans la chambre de Monsieur Elliott. Ouais, bon, on a fini, je pense, sur le recrutement de l'OM. On va commencer un petit peu à activer. Maintenant, du côté du Paris Saint-Germain, en fait, je vais peut-être regrouper un petit peu Paris et tout. Je vais d'abord vous demander séparément, mais on va peut-être faire un petit peu le rapprochement entre Paris et Toulouse. Je ne pense pas que, autant Anne et toi, Adrien, vous ne vouliez voir beaucoup de changements dans votre équipe. Déjà, Anne, sur Toulouse.
De toute façon, sur Toulouse, Casanova, il a été clair, il a dit qu'il était satisfait de son effectif et qu'il n'a jamais été vraiment favorable à l'arrivée de renfort en cours de saison. Par contre, il y a une petite piste qui a été évoquée, c'est Sofiane Taibi. Donc, il n'est pas connu, il joue en CFA. Il est toulousain et il était venu en novembre, je crois, s'entraîner avec l'équipe 4 jours. Bon, je pense que c'est plutôt une recrue qui servira à rien. C'est juste histoire d'avoir un plus en plus un jeune dans l'équipe. Et il y a juste Alexandre Bonnet qui a besoin de temps de jeu et qui a partir. Donc on ne sait pas s'il va partir. Et il y a aussi Paolo César qui avait décidé de partir mi-novembre et qui s'est finalement rétracté. Mais moi, je suis pas forcément favorable non plus. Parce qu'il y a des nouvelles recrues, parce que l'équipe elle tourne bien, elle marche bien, il y a un vrai collectif, donc c'est satisfaisant pour l'instant.
Ok. Adrien, je pense que tu es un petit peu dans le même état d'esprit.
Ouais, donc le Paris Saint-Germain n'est pas censé recruter beaucoup de monde, à part peut-être un arrière gauche qui serait Charlen Zodga, qui jouerait milieu gauche et arrière gauche, mais apparemment il serait dirigé par Aston Villa, donc cette piste semble un peu éteinte ces derniers temps. On parle d'un attaquant camerounais du Rapid Bucarest, Pierre Boya, je connais pas du tout. Puis sinon, ceux qui pourraient partir, ce serait les petits jeunes qui manquent de temps, c'est-à-dire Mounoubou, Mabiala, Sankaré et Ngoï. Voilà. Pas de gros changements, quoi.
Et il y a pas de piste pour acheter un remplaçant à Ceará sur le côté droit?
Ah, pas du tout. On va pas parler.
C'est un peu comme à Marseille où il y a un arrière gauche chez Taiwo et Bonnard joue arrière droit, mais Bonnard est un arrière gauche à la base et il y a que trois latéraux à Marseille, quoi, ce qui est pas suffisant. Bref.
Ok. Ouais.
Enfin, ça a pas beaucoup bougé en tout cas, voilà.
Ok, ok. Donc sur le recrutement de Toulouse et de Paris, c'est pour ça que je pouvais faire le rapprochement parce qu'il n'y a pas vraiment besoin. Bah, et puis on va peut-être pouvoir mettre Lille aussi dans le paquet, tu crois pas, Ch'ti?
Honnêtement, je peux dire le mercato de Lille, il s'annonce vraiment très calme. À mon avis, il n'y a pratiquement personne qui va partir. Ou alors, on va peut-être se débarrasser de Maric qui joue pas du tout, qui entre pas plus dans les plans de Garcia qu'il est entré dans les plans de Puel. Mais sinon, à part que les recruteurs vont s'activer à chaque fois dans les derniers jours pour arracher un attaquant qui sait marquer des buts, ben à mon avis, on va passer un mercato vraiment très calme.
Ah, ok. Et Hugo, pour finir avec Monaco, là, je pense que tu vas avoir des noms. Enfin, t'aimerais bien voir toute l'équipe se renouveler, mais bon. Peut-être son entraîneur.
Ouais, l'entraîneur et surtout faut enlever Modesto, quoi. Modesto, mais rien, il faut les enlever. Quoi. Pour ça, il faut recruter un bon arrière-droit de métier.
Adriano s'est trouvé un poste qui lui convient bien, défenseur central gauche. Il est pas mal, je trouve.
Ouais, mais je le préfère au centre. Hein.
Oui, c'est ça. Dans l'axe, mais à gauche, ouais. Je veux dire, c'est ça, avec Timic à ses côtés.
Bref, du moment qu'on peut remplacer Modesto.
Ah, Modesto. On vous le donne à 4 millions de plus. Hein. Pareil pour Meriem avec le sachet de bonbons en plus.
Et une petite frite.
Et une image. On remplace en attaque parce que.
Ouais, c'est ça que j'allais te compléter, oui, parce qu'en attaque, il n'y a pas de tueur devant. On le disait encore hier. Pino, Licata, tout ça, c'est pas vraiment des tueurs.
Licata, il est pas mal devant le but et dans le jeu, il ne sert pas à grand chose.
Bah, et puis Licata, je veux bien qu'il soit pas mal devant le but, mais il faut aussi qu'il soit assez physique devant pour un mec à la Waro qui puisse dévier des ballons, parce qu'un finisseur, ça doit servir aussi à ça. Et Licata, il est juste dans le registre de finisseur, donc c'est un petit peu trop limite.
Voilà.
J'aimerais, pourquoi pas avec un mec autour Licata autour d'un attaquant, d'un point d'ancrage devant, ça serait peut-être assez intéressant. Et Pino qui se découvre un petit peu quelques talents aussi de dribbleur, mais pour une fois efficace, qui pourrait être aligné sur le côté gauche à la place de Meriem, qui est toujours Casper, comme à son habitude. Je suis assez d'accord avec toi pour le recrutement au poste où il faudrait. Bon. Ben, cette dernière émission va se finir. Bon, allez, parce que je sais que vous voulez tous absolument. On va faire un petit peu un classement chacun notre tour. Meilleur joueur, une surprise, un espoir. On va faire ça parce que je sais que Roméo était trop content d'avoir lancé ça.
Ouais.
Donc, un petit classement en fait du meilleur espoir, meilleur joueur et puis la surprise et puis on va dire celui que vous pouvez pas voir et peut-être
l'équipe type
si vous voulez, ouais. Ok, mais par contre chacun son tour et on y va assez vite, donc on va commencer par toi, Ch'ti, vas-y.
Ouais, donc moi j'ai déjà fixé mon équipe type de cette première partie de saison. Alors gardien Lloris, je vais pas dire Mandanda, je sais, je vais prendre des critiques.
Non, parce que pas du tout.
On ne commande pas les choix de ses petits copains, on les laisse parler.
Oui, je suis d'accord.
Bon, ensuite en arrière droit Chalmé, qui sait qu'il confirme toujours plus avec Bordeaux. En défenseur central, je vais mettre Adil Rami, toujours très physique, mais qui sait bien défendre assez rudement parfois, d'accord, mais qui défend, voilà. Sinon, je vais prendre, je sais pas qui je mettrai comme autre défenseur central, j'ai pas vraiment d'idée.
Diawara, ouais.
Ouais, Diawara, voilà, Diawara, ouais. Ouais, ça me semble vraiment, un bon choix. Ensuite, en arrière gauche, je mettrai Sylvain Armand. Voilà. Je vais prendre un Parisien dans l'effectif.
Attends, j'ai entendu Rome rigoler là.
C'est indéniablement le meilleur arrière gauche.
Non, c'est pour te provoquer. Ah, je suis pas d'accord, mais bon, c'est pour te provoquer, Adrien.
Vas-y, continue, Ch'ti.
Deux milieux défensifs, Étienne Didot et Johan Cabaye. Deux ailiers, enfin Gourcuff, lui c'est pas vraiment un ailier, mais bon.
Ouais, tu le mets sur le côté, ok.
Voilà, et à gauche Michel Bastos, la petite touche lilloise, et en pointe Gignac.
Ok, bon.
T'en oublies un là, non?
Oui, t'as fait que.
T'en as 10 là.
Oui,
attends, je récapitule. Lloris, Chalmé, Rami, Yawara, Armand, Cabaye, Dido,
c'est toi.
Ah ouais, ça fait 10.
Donc vas-y, t'as le droit d'ajouter celui que tu veux.
Bon bah Benzema alors.
Ah, ah quand même. Quand même, un joueur de classe dans ton effectif. Oh, je blague. T'aurais pu ajouter Zubar, tu sais, il aurait été au moins dans un effectif, comme t'avais une place vacante, tu sais. Parce que là, le pauvre, il va être dans aucun de nous. Adrien, à toi de faire un petit peu ton effectif.
L'équipe type, donc je dirais dans les buts de Douchez, à droite Fanny, en défense centrale Diawara et
Traoré pour son raid solitaire contre je sais plus qui.
Voilà, Traoré.
Oh, c'est bon, il a fait qu'une fois. Hein.
Ah oui, mais c'est mythique quand même. Je dois dire ça.
À gauche Armand, en milieu récupérateur, je mettrai Aliou Diarra. Après, c'est une équipe plutôt offensive, donc je vais mettre Cessegnon. Je mettrais Gourcuff, je mettrais, comment il s'appelle, je cherche, je mettrais Bastos, il m'en manque deux, donc je mettrais Waro Kavenagi.
Ok. Anne, à toi.
Ouais, alors moi en gardien, je mettrais Carasso.
Ouais.
Après, pour la défense, je mettrais, je vais peut-être me tromper sur la prononciation, mais celui de Rennes, Mangan,
ouais.
Avec Seto, Armand et Chalmé. Ensuite, pour les milieux, je vais mettre Cessegnon et Étienne Didot. Je pense aussi à Gourcuff, Bastos, et en attaquant, Gignac, et je crois qu'il m'en manque un. Je vais mettre Waro, ouais.
Ok. Il reste Helvetia à toi, fais-toi ta petite équipe.
Bon, moi, mon équipe, alors. Je pense que Douchez.
Helvetia et la Ligue 1, toujours une grande équipe, une grande histoire d'amour.
Bon, je pense qu'on peut quand même mettre Douchez en gardien. En défense, c'est. On met déjà Grisling et Müller dans l'axe. Sérieusement, je ferais pas une équipe type, mais je mettrai en valeur quelques joueurs comme par exemple Michael Pagis, Karim Benzema ou Al Gourcuff, des joueurs comme ça qui méritent clairement leur place dans cette équipe. Après, pour une équipe type, c'est dur de le faire après une demi-saison, mais j'attends. Et on peut aussi souligner Guillaume Haro, même si ça lui... Ou si ça lui
t'as du mal à sortir des Parisiens dans ton équipe type, ça se sent. Ça te fait mal au cœur.
Ah, Guillaume Haro. Non, mais sérieusement, c'est une équipe type... J'aime pas trop faire après une demi-saison comme ça, parce qu'on verra l'équipe type à la fin de saison. 80% des joueurs ont changé, donc... Ouais. Tu peux mettre quelques joueurs en valeur, mais après ça paraît compliqué de faire une vraie équipe.
Ok. Pour finir, Hugo. Ah, puis il y aura Roméo aussi.
Ah oui, merde. Dans le but, je mets bien entendu Damien Grégory. Grégory dans le but, à droite Modesto, dans le centre Zubar et Douglao.
Ah, Douglao.
Oui, Douglao, effectivement. à droite, enfin à gauche, on va mettre un Monégas, allez, Couffré. En défense, en milieu défensif, ben, comme on en Ligue 1, je vais en mettre deux. Hein. Pierre Coleco et... c'est qui est très bon. Ah, ben, on va mettre un ballon.
Stéphane Dalmat.
Ah, Stéphane Dalmat, je le cherchais. À gauche, ben...
Delgado.
Alors, je vais dire Kamel Meriem. Hein, Kamel Meriem.
Ah, puis il faut mettre Itaou Delgado.
Là, t'as pas qu'il y a un peu à droite. Delgado à droite et en attaque on va mettre Piquen et
Samassa Speed Samassa.
Delgado, remarquez, il est pas mauvais hein, ces derniers temps.
Oui, il a fait un bon match effectivement.
C'est un seul match, ça suffit pas à prouver.
Et en attaque
je mets Samassa avec Piquen.
Ah, ça, parfait.
Ça, ça, bon ça, souvenir de
ça, bah, ça, ça, c'est une belle équipe. Et ben, Roméo, pour finir.
Oui, oui. Donc, alors, moi, mon équipe, la meilleure de tous, bien sûr. La meilleure de toutes, ah, bien sûr.
Ouais, de tous, bien, ça pense bien.
Au but, Douchez.
Il est droit, marseillais, il est prétentieux. Regardez.
Oui, exactement. Arrière droit, Fanny. Dans l'axe, Mangan. Et, ah, putain, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle. Rami. À gauche, Mamadou Dabo. Après, un milieu à 4 en losange pour comme un peu comme Guéret. En milieu défensif, Alou Diarra. Dans l'axe droit, Ziani. À gauche, Bastos. En meneur de jeu, Stéphane Cessignon. Et en attaque, Gignac et Oaro.
Ok, ok.
Et juste une petite remarque. Personne n'a mis Tchara, et franchement, je trouve que c'est un bon début de saison.
Qui?
C'est pas parce que je suis parisien que je dis ça, hein.
Qui? C'est Ara? Ouais. Et personne n'a mis Karim Ziani, qui fait pourtant le, un,
normal, c'est une tanche. Saison. C'est une tanche.
C'est une... Ziani, une tanche.
C'est bon, on va pas repartir sur un débat. On en a assez fait ce soir.
Sans bien joueur de Ligue 1.
Dans deux jours, c'est Noël. Donc, dans deux jours, c'est Noël. Et comme notre bon patron qui est aux manettes, encore une fois, conserve son projet de radio qui plaît à vous, auditeurs, et à nous, on va lui réserver une petite surprise que va entamer Helvetia. Et on va suivre derrière. Vas-y, Helvetia.
Avec leur maillot grenat du football,
ils sont
les
rois.
Allez, c'est ils n'ont qu'une seule passion,
c'est de shooter le ballon. Allez, c'est
ils n'ont qu'une seule
patrie. Oui, c'est le stade des Charmilles.
Allez, c'est
ils sont les rois du sport, les plus beaux, les plus forts. Allez, c'est quand ils se battent comme espions pour devenir les
plus.
Avec moi, il y a les supporters
pour Bio et pour Tisser. Allez, Cervette. Fini par l'attaque. Chibert, Tanson et Marc. Allez, Cervette.
Ils sont les rois du sport, les plus beaux, les plus forts.
Allez, Cervette. Cervette. Cervette.
Voilà. Voilà ce que ça aurait dû donner.
Avec leur maillot grenat du football, ils sont les rois.
Allez, Cervette.
Ils n'ont qu'une seule passion, c'est de shooter le ballon.
Allez, Cervette.
Ils n'ont qu'une seule patrie, oui, c'est le stade des Charmilles.
Allez, Cervette.
Ils sont les rois du sport, les plus beaux, les plus forts.
Allez, Cervette.
Ils se battent comme des lions pour devenir les
chevaliers.
Dans leur courage exemplaire, fait reculer l'adversaire.
Allez, Cervette.
Sur les chemins de la gloire, ils marchent vers la victoire.
Allez,
Cervette. Ils sont les rois du sport, les plus beaux, les plus forts.
Allez, Cervette.
Allez, Cervette.
Joyeux Hanouka, Dan. Et on précise bien que c'était pour Noël qu'on a fait tout ça. Pas grand confondé, hein. On n'est pas comme ça tous les soirs. Et encore merci pour cette belle année qu'on a vécue
merci,
avec
Dan, vous. Cette magnifique année. Et à l'année prochaine.
Merci, Dan.
Merci à Roméo pour ce magnifique Bordeaux pour la radio Manibo. Merci Roméo, merci.
Soutien à Modibo.
Merci Modibo.
Et je voudrais faire une petite dédicace à Mamadou Speedy Samassa, la meilleure recrue à l'OM qu'on a vue depuis longtemps. C'est exceptionnel ce joueur.
Va nous lâcher avec ton vilain Samassa.
Moi je voudrais juste laisser un petit message parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent au topic apéro du forum TFC.
Merci à Dan pour son projet radio. Voilà.
Et soutien Modibo qui va devoir lâcher la maille, 1000 euros.
10 000.
10 000, ah oui, 10 000 euros.
Ah, tu viens dire le guignol,
c'est le prix de la Clio de mon père.
Dédicace à tout le monde d'Utopie, Klosk et dédicace à Shoah.
Ouais,
oh dédicace, dédicace à Frédéric, Frédéric Thiriet.
Dédicace à Fapounet qui est en train de se prendre des râteaux en ce moment. Je pense à lui, je te soutiens.
Dédicace à Dizzy à Venise.
Oui, qui est en amoureux avec son colocataire, avec Babos.
À Marvolo, Billy. Billy qui va avoir demain 23 ans. Gros bisous, mon Billy.
Oui.
Et à tous les gars, à toutes les équipes, à tous les dédicaces.
À Marvolo, qui est le grand gagnant de la première année de la radio
Attack. À notre pêcheur de Boulogne. Oui, vive. Ah oui, dédicace à Vive.
Et à notre fan de la bière, Rudy.
On vous aime tous. Ah, les serviettes.
Giro, West,
Carou, Gégénio, El Boro,
Raoul.
Merci encore à Rodeo pour le bando, pour la radio. Merci beaucoup, Rodeo.
Merci et à l'année prochaine tout le monde, bonne fête de fin d'année, bon Noël, et on finit en chanson avec Servette. Merci LVCA de nous avoir fait découvrir ce si bel hit. Allez, ouais. Bon à tous et à l'année prochaine.
Allez, Servette.